Ils s'appellent Eva, Marjana, Arnaud et Johan. Tous les quatre sont collégiens ou lycéens à Hyères. Ils participent à un atelier radio sur Capo FM et vous proposent chaque mois l'interview d'une personnalité locale de leur choix. Alors, sans plus attendre, quel est l'invité du jour ?
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Brice Viéville. Vous êtes le directeur de Ara Adopté à l'Acro. Bonjour et merci de nous recevoir. Nous avons vu que vous proposiez plusieurs activités sur le domaine équestre. Pouvez-vous présenter le Ara ?
Bonjour, oui. Alors le Ara Adopté constitue plusieurs pôles. Un pôle écurie de propriétaires où on accueille les chevaux de propriétaires en pension. Un pôle école d'équitation où les gens qui ne possèdent pas leur propre cheval peuvent apprendre à monter à cheval sur ce qu'on appelle des chevaux d'école, des chevaux de club. Et un pôle aussi clinique vétérinaire où des chevaux sont accueillis pour des petites chirurgies ou pour des problèmes orthopédiques. Alors moi je suis gérant donc du Ara Adopté depuis 3 ans maintenant. J'ai fait toute ma carrière dans les environs de Toulon, au Pradé, après à Carnoux, là hier. Et donc depuis 3 ans je suis à l'Acro, au Ara Adopté. Je dirige une équipe de 6 personnes, 2 monitrices et 4 palefreniers. Alors des palefreniers, ce sont les gens qui s'occupent de l'entretien des chevaux et de l'entretien des boxes. Nourrir et entretenir les boxes et les parcs pour un maximum de confort pour les chevaux. J'ai fait une formation de moniteur à Hyères et puis après j'ai fait une formation d'instructeur, le niveau au-dessus dans l'enseignement, à Saumur pendant 2 ans. Et après j'ai fait de la gestion de centre équestre. Voilà.
Comment êtes-vous arrivé à exercer ce métier ?
Alors j'ai des parents qui étaient fonctionnaires dans la fonction publique, donc qui n'avaient rien à voir avec les chevaux. Et j'ai eu l'occasion de monter à cheval grâce à un comité d'entreprise quand j'habitais en Lorraine, un comité d'entreprise d'une aciérie. Et j'ai eu l'occasion de commencer comme ça. Puis la monitrice a trouvé que je me débrouillais bien. Elle a donc incité mes parents à pratiquer un peu plus souvent. Et puis mes parents ont fini par acheter un poney, puis un cheval. Et de fil en aiguille, bah, j'ai décidé que j'allais essayer d'en faire mon métier. Et voilà, donc j'ai tout fait pour réussir à exercer ce métier-là. C'était pas forcément une destinée qui m'était promise de par les professions de mes parents, mais voilà, j'ai réussi en travaillant, j'ai réussi à en faire mon métier.
Quelle formation faut-il faire pour occuper votre poste ?
Alors moi, ce que je conseille, dans la mesure du possible pour exercer un poste d'enseignant dans l'équitation, c'est d'essayer le plus longtemps possible de s'ouvrir l'esprit à plein de choses, c'est-à-dire de suivre une filière plus ou moins générale, pour l'ouverture d'esprit, pour voir un maximum de choses, apprendre un maximum de choses. Et puis après, quand on est vraiment sûr de son choix, eh ben il y a des formations d'enseignants d'équitation qui s'appelle le BPGEPS, un brevet professionnel, qui se font dans des centres régionaux, voilà. Mais je pense qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, essayer de faire d'abord d'acquérir une formation générale, des connaissances générales le plus longtemps possible, et puis après éventuellement se tourner, si on est sûr de son choix, se tourner vers l'enseignement de l'équitation.
À quel âge êtes-vous monté sur un cheval pour la première fois ?
Moi j'ai commencé à monter à cheval à 9 ans, parce qu'à l'époque, on commençait, les tout petits poneys n'existaient quasiment pas en France dans les années 80. C'était vraiment le tout début des petits poneys, ce qu'on appelle les Shetland. Et en fait, l'équitation se commençait vers 9-10 ans. Maintenant, on commence à 4 ans, 3 ans, voire 3 ans, ce qui à l'époque n'était pas envisageable. Donc moi, j'ai commencé, oui, j'avais 9 ans, je crois.
Combien de jours par an le domaine est-il ouvert au public ?
Alors, étant donné qu'on a des chevaux en pension, évidemment, les propriétaires doivent pouvoir venir voir visiter leurs chevaux ou les faire travailler tous les jours. Donc, les deux seules journées où on essaie de vraiment de garder le club fermé, y compris aux propriétaires, c'est le 31 décembre et le 1er janvier. Le 25 décembre, pardon, et le 1er janvier. Voilà. 25 décembre, le jour de Noël, et le 1er janvier, le jour de l'an, où on a envie, nous aussi, de profiter un peu de nos familles. Et donc, on demande aux gens qui ont leur chevaux en pension de respecter ces deux journées-là. Et maintenant, c'est bien rentré dans les mœurs, et c'est respecté, il n'y a pas de souci. Sinon, tout le reste du temps, on est ouvert, y compris les jours fériés, évidemment. En plus, on est un métier qui relève aussi du loisir. Donc, on doit travailler quand les gens ne travaillent pas.
Faites-vous des intervenants. Faites-vous venir des intervenants ponctuellement.
Alors, donc, je l'ai dit tout à l'heure, là, on a 6 employés en permanence sur le centre équestre, 4 palefreniers, 2 moniteurs, 2 monitrices en l'occurrence. Alors, qui interviennent ponctuellement, on a un moniteur spécialisé dans l'équithérapie, qui est Bertrand. Il intervient sur les groupes d'équithérapie 4-5 fois par semaine, mais on peut dire que c'est un intervenant occasionnel quand même. Ensuite, on a différents corps de métiers qui interviennent occasionnellement. C'est essentiellement les vétérinaires, les maréchaux ferrants. Les maréchaux ferrants, c'est ceux qui mettent les fers aux chevaux et qui règlent les problèmes de pied des chevaux. Il peut y avoir aussi des ostéopathes qui peuvent intervenir ponctuellement, des selliers éventuellement qui peuvent venir faire essayer du matériel à des cavaliers.
Il existe de nombreuses espèces de chevaux. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes ?
Alors, nous on a donc plusieurs races de chevaux, plusieurs espèces de chevaux. Donc ça va du poney, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, poney Shetland, qui sont les plus petits, qui mesure aux alentours de 90 cm au garrot. Le garrot, c'est la bosse qu'ils ont en avant du dos. Entre 90 et 1,10 m de garrot. Donc ça, c'est les petits poneys qui vont servir à l'initiation des tout petits enfants. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle des poneys qui vont mesurer entre 1,10 m et 1,30 m, 1,35 m. Ensuite, on a ce qu'on appelle des doubles poneys qui vont aller jusqu'à 1,49 m. 1,50 m, qui vont pouvoir servir et à des adolescents et à des adultes de poids léger. Et ensuite, on passe aux chevaux, donc au-dessus d'1,49 m, on passe aux chevaux. Donc d'abord, on a des petits chevaux qui vont pouvoir servir à l'initiation des enfants et des adultes. Et puis après, on passe sur les chevaux de sport. Sachant que dans les poneys, il y a des poneys de sport aussi. Hein. Mais là, après, donc sur les chevaux de sport, on a différentes races. On a essentiellement ce qu'on appelle des selles français. C'est de l'élevage français, naturellement. Des anglo-arabes. C'est un élevage essentiellement français aussi. Après, on a quelques chevaux étrangers, allemands ou hollandais. Tout ça, c'est des chevaux de sport. Et on a aussi quelques pur-sang et trotteurs qui nous servent pour l'école d'équitation. Les pur-sang et les trotteurs sont généralement des chevaux qui ne sont plus aptes à la course ou qui ne font pas les performances suffisantes en course et donc qui peuvent être achetés à des prix très intéressants et ce qui permet en plus de leur éviter bien souvent le passage par les boucheries. Voilà. Donc on rachète des pur-sang ou des trotteurs essentiellement pour leur coût modique et pour leur éviter un passage par la boucherie. Sachant que, par contre, c'est généralement des chevaux qui nous demandent beaucoup de travail pour les rendre utilisables au club. C'est-à-dire que, autant on a un intérêt financier à le faire, un intérêt moral aussi, mais ça va nous demander du temps pour qu'on puisse le confier après du temps de travail pour les confier après à des cavaliers.
Êtes-vous éleveur de chevaux ou faites-vous de la production ?
Alors, on en fait un petit peu. Mais c'est, je dirais que le peu qu'on fait, c'est plus pour nous faire plaisir que pour des soucis de rentabilité ou d'économie. On est dans une région qui est absolument inappropriée à l'élevage de chevaux. L'élevage de chevaux, ça doit être fait avec des grands espaces, des prairies où le cheval trouve de quoi manger, avec simplement quelques petits apports d'aliments supplémentaires, mais voilà. Nous, le problème de faire de l'élevage ici, c'est qu'on est obligé de leur apporter toute la nourriture, pendant un cheval, on le débourre, c'est-à-dire qu'on commence à le travailler au début à 3 ans et demi. Donc c'est-à-dire que pendant 3 ans et demi, un cheval, il sert à rien, il coûte. Donc naturellement, si on doit lui apporter toute la nourriture et pas simplement de l'herbe, ça revient très très cher. Donc on arriverait à des chevaux à 4 ans ou 4 ans et demi qui nous reviendraient trop cher. On a plus intérêt à aller acheter des jeunes chevaux ailleurs qui ont été élevés à l'herbe à coût moindre. Voilà. Donc très peu d'élevage ici.
Savez-vous s'il existe encore des chevaux à l'état sauvage en France ?
Alors des chevaux à l'état sauvage complet, je crois pas. Je sais qu'il y a dans le haut des Alpes-Maritimes, il y a un immense domaine où ils ont des bisons, et je crois qu'il y a des chevaux de Przelazki en liberté là, et qui là effectivement sont quasiment sauvages. Il doit y avoir aussi, je pense, dans le massif, du côté du massif central, des grands domaines comme ça où ils ont, je pense, des bisons et des chevaux de race très très ancienne. En Corse, je sais qu'il y a aussi des chevaux qui vivent en liberté et ils les font reproduire dans la montagne et puis ils les attrapent à 3 ans à moitié sauvages. Ça se fait aussi dans les Pyrénées avec ce qu'on appelle une race, les Mérins. Voilà, donc je pense qu'il y a encore des chevaux qu'on peut considérer comme sauvages en France, oui.
Les chevaux de ce haras participent-ils à des concours ? Comment ça se passe ?
Alors, nous, notre centre équestre est essentiellement concentré sur le dressage, le saut d'obstacle et ce qu'on appelle le hunter. Donc, c'est 3 disciplines que nous pratiquons essentiellement ici. Donc le dressage et le saut d'obstacle sont des disciplines qu'on appelle olympiques, donc qui se déroulent aussi aux Jeux olympiques. Donc que vous pouvez voir à la télé au moins tous les 4 ans. Le dressage, donc, c'est ce qu'on appelle des reprises de dressage qui doivent être déroulées par le couple cheval-cavalier, où ils doivent exécuter des figures dans des allures pas trop galop imposées. Donc la réalisation des figures et la beauté des allures sont notées. Voilà, c'est un peu comme du patinage artistique ou toutes ces disciplines où il y a un programme imposé. Et il y a une deuxième partie dans le dressage où c'est un programme libre en musique, ce qu'on appelle une reprise libre en musique, une RLM. Et donc généralement le classement se fait sur la reprise avec des figures imposées et la reprise avec les figures en musique libre. Donc ça, vous pouvez le regarder aux Jeux Olympiques. Généralement, ils montrent un petit peu les deux et c'est assez intéressant. Le saut d'obstacle, c'est un parcours de saut d'obstacle mobile, c'est-à-dire des barres qui peuvent tomber. Le principe étant de, sur 14 ou 15 obstacles, de réussir à sauter tous les obstacles sans faire tomber de barre, sans qu'il y ait de refus du cheval, sans que le cheval s'arrête et naturellement sans que le cavalier tombe. Après, il y a une troisième discipline olympique qui s'appelle le concours complet, où là, il y a dressage, saut d'obstacle et une autre discipline qui est le cross, où là, le cheval et le cavalier sautent des obstacles fixes, c'est-à-dire des gros troncs, des murs, etc. Donc le concours complet, nous, ici, on le pratique pas parce qu'on n'a pas de terrain d'entraînement. Et à titre personnel, je suis pas très favorable à la pratique du cross pour des raisons de sécurité pour les cavaliers et pour les chevaux également. Et je pense qu'à l'époque où on vit, avec l'évolution des mentalités, je pense que le cross est une discipline qui nuit plus à l'image de l'équitation qu'autre chose. Tous les 4 ans, quand vous regardez les Jeux Olympiques, il y a aussi des images de cross où on voit 90% des images, tout se passe bien, mais il y a 10% où on voit des chevaux tomber, où on voit des chevaux s'emplâtrer. C'est une discipline qui est à l'origine une belle discipline, mais qui correspond, à mon avis, qui ne correspond plus à l'ère du temps. Donc nous ici, essentiellement dressage, saut d'obstacle. Alors on part du niveau débutant des disciplines et on va jusqu'à, on a des cavaliers nous ici qui vont jusqu'à un niveau régional, national 2. Voilà.
Quelle est la durée de vie moyenne d'un cheval?
Alors la durée de vie des chevaux, elle augmente elle augmente comme la nôtre, même si on est en ce moment en train de tasser la durée de vie des humains. Mais les chevaux en moyenne, c'est maintenant ça doit être 22 ans, 23 ans. Ce qui à l'époque était vraiment des vieux chevaux. Bah, de par le suivi vétérinaire qu'ont les chevaux, les progrès qu'on a pu faire sur l'alimentation, sur la vermifugation des chevaux. Voilà, il y a plein de choses qui font que les chevaux vivent plus vieux maintenant. Les soins dentaires, etc. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on réussit à garder les chevaux plus longtemps en vie. Par contre, leur durée de vie professionnelle, leur durée de travail, par contre, elle ne s'est pas allongée. Un cheval qui va en carrière qui travaille jusqu'à 20 ans en compétition, je parle, c'est beau. Voilà. Généralement, ils arrêtent leur carrière à 15-16 ans.
Quelle est la durée de gestation d'une jument? Et combien de temps combien de poulains peut-elle avoir tout au long de sa vie?
Alors, la durée de gestation, c'est 11 mois. Après, on peut commencer à les faire reproduire à 3-4 ans. Il y a des juments de valeur qui reproduisent tous les ans et avec lesquels on fait des transferts d'embryons. C'est-à-dire qu'on les fait saillir ou on les assémine. On leur fait faire un embryon et on prend l'embryon et on le met sur une mère porteuse. Donc ça a un coût, évidemment, mais ça permet à des juments de valeur, des juments qui font... ou qui courent très bien en course, ou qui font du saut d'obstacle à haut niveau, ou qui font du dressage à haut niveau, de continuer leur carrière, et en même temps, de produire des poulains tous les ans. Donc il y a des chevaux qui vont produire, des juments qui vont produire 10-15 poulains, mais sans forcément les porter, ce qui évite en plus de les fatiguer. C'est pas elles qui font le plus gros du travail.
Que mange un cheval? Et pourquoi les chevaux ont-ils besoin d'un apport de sel?
Alors l'alimentation du cheval, l'alimentation naturelle du cheval, c'est l'herbe. Donc on pourrait dire qu'un cheval, il pourrait se nourrir uniquement d'herbe. Simplement, il faut une certaine superficie pour que le cheval puisse se contenter d'herbe. On considère qu'un cheval, il lui faut à peu près un hectare pour pouvoir se nourrir, et encore dans une région où il pleut régulièrement, où l'herbe pousse normalement. Quand on n'a pas assez d'herbe, on leur donne de l'herbe séchée qu'on appelle du foin. Donc l'herbe séchée, c'est de l'herbe qui est coupée, on laisse sécher en la retournant pour pas qu'elle s'abîme, pour pas qu'elle moisisse, et après on la rassemble en bottes de foin, et donc c'est ce qu'on leur donne toute l'année. Donc nous, dans notre région par exemple, ils ont très peu d'herbe, mais bon, par contre énormément de foin. Ensuite on leur donne un apport de céréales qui sont de l'orge, du maïs, de l'avoine, pour leur apporter les nutriments qui pourraient manquer dans l'herbe. Et quant au sel, c'est essentiellement l'été, pour combler la transpiration l'été. En hiver, ils n'ont pas tant besoin que ça d'apport de sel supplémentaire, mais en été, des chevaux qui travaillent, qui transpirent beaucoup, comme nous, hein, il faut un apport de sel supplémentaire. Et après, bien sûr, pas oublier l'eau, qui est très importante pour les chevaux. Un cheval boit entre 60 et 100 litres par jour.
Quand un cheval ne peut plus travailler, qu'est-ce qu'il devient?
Alors, pareil, il y a une grosse évolution des mœurs sur ce plan-là. Il y a 20 ans, la plupart des chevaux qui avaient fini leur carrière partaient à la boucherie. Maintenant, c'est quasiment plus le cas. La plupart des chevaux, quand ils ont fini leur carrière, partent à la retraite dans des endroits où on peut les garder en liberté et à moindre coût. Donc ils partent dans des régions où il y a beaucoup d'herbe, ou à la montagne, ou voilà. Après, il y a certains chevaux qui restent dans le secteur, dans des parcs. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de chevaux un peu partout dans des prés, parce que la plupart, ce sont des chevaux à la retraite qui sont plus utilisés ni pour la compétition, ni même pour la promenade. Il y a en plus maintenant, pour des raisons de sécurité sanitaire, la plupart des chevaux qui reçoivent un traitement, essentiellement d'ailleurs des traitements antibiotiques, se retrouvent exclus de la consommation. Donc ceux-là sont directement exclus de la consommation humaine, donc ne peuvent plus être mangés par l'humain. Donc en fait, si on prend nous les carnets des chevaux qu'on a ici, je pense qu'il doit y avoir 90% des chevaux qui sont exclus de la consommation humaine. Donc de toute façon, il faut leur trouver une retraite et du coup la meilleure possible.
Comment faut-il équiper un cheval et son cavalier pour pouvoir monter ?
Alors l'équipement du cheval s'appelle le harnachement. Donc c'est constitué d'une selle, d'un filet, c'est la partie qui tient le mors. Voilà, en gros c'est tout. La selle et le filet suffisent pour monter un cheval. Pour le cavalier, il va falloir un casque qui maintenant est obligatoire quasiment en permanence, comme dans la pratique du vélo par exemple. Les cavaliers maintenant, on ne voit quasiment plus jamais un cavalier monter sans casque. Il lui faut un pantalon d'équitation dans la mesure du possible parce que c'est un peu renforcé à l'intérieur du genou pour éviter les frottements. Des bottes ou ce qu'on appelle des chaps. Des chaps, c'est un peu des surbottes. C'est ce qu'on met sur des chaussures normales et qui vont protéger le mollet.
En promenade, pourquoi ne faut-il pas laisser son cheval manger de l'herbe sur son chemin ?
Il n'y a rien qui interdit de laisser manger son cheval de l'herbe sur le chemin, si ce n'est que le cheval risque de prendre l'habitude d'arracher les rênes pour aller manger de l'herbe. Et une fois que l'habitude est prise, c'est difficile de lui faire passer et de lui faire comprendre que non, finalement, il n'a pas le droit. Donc le mieux, c'est de lui interdire dès le départ. Très honnêtement, non. Si c'est toujours pareil. C'est sûr que si on part pour une promenade de plusieurs dizaines de kilomètres, on n'a pas intérêt de s'arrêter tous les 10 mètres pour laisser manger le cheval. Si c'est une promenade de récompense pour le cheval, par exemple, après un travail, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Nous, on a la possibilité d'aller les faire brouter après leur travail en carrière. Bah là, le but justement, c'est qu'ils soient contents d'aller se promener. Donc là, on leur laisse manger de l'herbe. Donc ça dépend un peu des circonstances.
On dit que les chevaux sont sensibles au bruit. Est-ce vrai ?
Alors l'instinct de survie du cheval est le seul moyen et son moyen principal de survie, c'est la fuite. Donc comme beaucoup d'animaux, le réflexe naturel veut que dès qu'il y a quelque chose qui les inquiète, ils se sauvent en courant. Et c'est pour ça que les poulains par exemple se lèvent très tôt, quelques heures seulement après leur naissance, les poulains ils se lèvent et ils sont capables de partir au galop très très vite. C'est très impressionnant d'ailleurs à voir, parce qu'on les voit naître, ils sont couchés et puis deux heures après ils sont en train de faire du rodéo sur leurs quatre pattes. Donc le réflexe du cheval, c'est dès qu'il entend quelque chose qui l'inquiète, il se sauve, il fait un écart, il part au galop, etc. Donc ce qui peut l'inquiéter, ça peut être ou un mouvement brusque ou quelque chose d'inhabituel dans son environnement, ou effectivement un bruit inhabituel. Ce qu'il peut y avoir de pire, c'est ça, c'est justement quelque chose d'inhabituel dans un environnement habituel. Voilà, ça c'est ce qui va l'inquiéter le plus. Quand on l'emmène dans un environnement qu'il ne connaît pas, à la limite, il n'est pas forcément inquiet. Mais si vous l'emmenez dans la carrière dans laquelle vous travaillez tous les jours, et que ce jour-là, il y a un marteau-piqueur à côté, ça va lui faire peur, il va avoir tendance à s'inquiéter et éventuellement à faire des demi-tours ou à se sauver au galop.
Est-ce que les chevaux savent nager ?
Alors oui, mais c'est pas des cracks. Hein. C'est pas des cracks de la nage. Ça nage, mais ils nagent, hein, mais c'est pas vraiment leur truc quand même. Courir, sauter, ils savent le faire. Nager, c'est pas.
Nous avons vu sur votre page Facebook que vous auriez obtenu un label handicap. Comment le contact avec les chevaux peut-il être thérapeutique ?
Alors ça, c'est plus à Bertrand qu'il faudrait poser la question, parce que lui, il est formé pour ce type de public et il a beaucoup plus les clés que moi et les intérêts et les aboutissants du cheval, de l'utilisation du cheval. Je pense que c'est sans doute lié à la gentillesse naturelle du cheval. Le cheval, c'est un animal foncièrement gentil et qui a un ressenti au niveau des personnes qui est très puissant. C'est-à-dire que quand il va, peut-être pas tous les chevaux, mais vraiment la plupart des chevaux, quand ils vont se retrouver en contact de quelqu'un qui a un handicap, ils vont faire preuve de, je dirais presque d'empathie, de gentillesse, plus que les autres animaux peut-être. Voilà. Et donc, bon, pour moi, c'est l'analyse que j'en fais. Je suis pas assez spécialiste pour pousser plus loin la chose, mais je pense que l'intérêt de l'utilisation du cheval, c'est cette capacité du cheval à être gentil face à quelqu'un qui a un handicap, Après, le fait qu'un cheval ne fasse pas de différence, je dirais, entre quelqu'un qui est porteur d'un handicap et quelqu'un qui n'est pas porteur d'un handicap, ça peut-être que c'est tous les animaux, mais je trouve que s'il y a cet aspect de gentillesse du cheval envers des gens peut-être en situation de difficulté. Ouais.
Quel est le prix d'achat et d'entretien d'un cheval ?
Alors les prix, là, il y a vraiment tous les prix, c'est très difficile de répondre. Un cheval d'école, en moyenne, entre les poneys et les chevaux, si on prend, moi j'en ai j'ai à peu près une trentaine de chevaux et poneys d'école, on va dire une moyenne de 2000 euros, 1500-2000 euros. Après, quand on est sur des chevaux de sport, on va passer sur un niveau national, régional, national, on est sur des chevaux qui vont coûter entre 10 000 et 25 000 euros. Après, à l'entretien, un cheval coûte, pour un cheval d'école, l'entretien c'est à peu près 150 à 200 euros par mois. Entre la nourriture, l'entretien des parcs, des boxes, la ferrure, les frais vétérinaires, voilà, on est entre 150 et 200 euros par mois. Pour un cheval de propriétaire, le prix d'une pension, chez nous, on est à 440 euros par mois en boxe, avec le cheval sorti tous les jours, et les chevaux qui sont dehors avec un abri dehors, c'est 350 euros par mois.
Quels sont les soins nécessaires à apporter aux chevaux ?
Alors, on a les soins quotidiens. Alors, les soins quotidiens, c'est la sortie du cheval. Si c'est des chevaux qui sont en boxe, il faut essayer qu'ils soient sortis quand même. C'est pas des animaux faits pour rester 24 heures sur 24 dans un box de 9 mètres carrés. Bon, après, il y a des jours où il pleut fort, où les chevaux, ben, on préfère les laisser dedans, ils sont aussi bien dedans. Le premier soin, voilà, c'est la sortie, le mouvement du cheval. Donc ça peut être aussi éventuellement le travail du cheval, la nourriture, la distribution d'aliments. Ça va être aussi le pansage, le nettoyage du cheval. Donc si c'est pas fait quotidiennement, c'est pas dramatique, mais il faut que ça soit fait régulièrement. C'est ce qui permet de voir s'il y a des plaies, s'il y a des allergies, des problèmes que de loin on peut pas voir. Ça c'est pour tout ce qui est soins quotidiens. Après il y a des soins hebdomadaires. Ça va être le graissage des pieds pour assouplir la corne. Ça va être peut-être un pansage un peu plus approfondi. Après il y a des soins tous les deux mois qui sont la ferrure du cheval, ou en tout cas la coupe de la corne. Ça s'appelle le parage. Quand on coupe la corne pour que la corne qui pousse en trop comme nous pour les ongles, quand on se coupe les ongles, bah, chez les chevaux ça s'appelle le parage. Donc on n'est pas obligé de leur mettre des fers, tant qu'ils ne vont pas dehors dans les cailloux, à la limite, ils ne sont pas obligés d'avoir des fers. Mais dans ce cas-là, il faut quand même assurer un parage, une coupe de la corne. Et après, tous les ans, il y a la vaccination des chevaux contre la grippe essentiellement et le tétanos.
Que devient le fumier des chevaux ?
Alors ouais, c'est une bonne question parce que il faut trouver des solutions, c'est sûr. Alors on essaie petit à petit de trouver des solutions un peu en coopération entre professionnels, mais c'est pas évident. Le plus facile, c'est d'avoir des agriculteurs autour qui acceptent de prendre du fumier pour améliorer leurs terres. Soit ils viennent le chercher, ou nous on le ramène avec un camion. Moi j'ai acheté un petit camion l'année dernière pour pouvoir le livrer à droite à gauche et m'en débarrasser. Ça me coûtait quand même presque 800 euros par mois d'évacuation de fumier avant, donc c'est pas négligeable.
Peut-on soigner une entorse au niveau des pattes ?
Alors une entorse, alors déjà les chevaux, on parle de jambes, on parle pas de pattes, donc on dit pas les pattes, on dit les jambes. Comme on dit la bouche, on dit pas la gueule, on dit la bouche. Et alors une entorse, bah c'est assez problématique. Il faut un cheval qui se fait une entorse, il faut le laisser au minimum 2 mois dans un espace vraiment restreint pour pas qu'il refasse de faux mouvements. Au minimum 2 mois.
On a entendu dire que l'on pouvait tondre des chevaux. Pourquoi fait-on ça ?
Alors la tonte des chevaux, alors là c'est plus trop la saison, on va pas pouvoir en voir de tondu. La tonte des chevaux, si là on voit, elle a été tondue, on voit une démarcation au niveau des membres de derrière, on voit une démarcation des poils. On voit qu'il y a des poils plus longs en bas qu'en haut. Alors la tonte des chevaux, on l'a fait l'hiver essentiellement, bizarrement. On leur rase les poils de façon à ce qu'ils sèchent plus vite quand ils ont fini de travailler. L'hiver, ils font une grosse épaisseur de poils d'hiver. Et quand on fait travailler les chevaux, ils transpirent beaucoup et ils vont mettre énormément de temps à sécher. Et donc, s'il fait froid, eh ben, ce temps qu'ils vont mettre à sécher, ils risquent de prendre froid. Donc, eh ben, c'est comme les sportifs. Quand ils ont fini leur travail, les sportifs, ils mettent une parka, ils mettent quelque chose de chaud. Eh ben, nous, on leur remet une couverture. En plus, pour l'entretien, c'est beaucoup plus facile quand ils ont les poils courts. Moins de maladies, moins de champignons, etc.
Quels sont les points communs entre le caractère des chevaux et celui des hommes?
Je sais pas s'il y a énormément de points communs. Chez les chevaux, il y a énormément de différences de caractère. C'est d'ailleurs assez intéressant à observer. Là où c'est très intéressant à observer, c'est quand ils sont en groupe, quand ils sont en troupeau. Et c'est là où on peut voir les différences de caractère entre les chevaux. Il va y avoir des dominants, des dominés, des soumis, des petits qui vont aller se faire copain avec des grands pour se protéger. Enfin, c'est là où on peut voir quand même qu'il y a certains parallèles qu'on peut faire avec les êtres humains. Après, je pense que la notion de vice chez le cheval, pourtant on entend dire, hein, on entend parler de chevaux vicieux. Un cheval vicieux, ça sera un cheval qui sera peut-être plus peureux que les autres. Bon, ben après, c'est peut-être aussi comme les humains, mais c'est beaucoup lié à leur passé. S'ils ont un passé où ils ont souffert, où ils ont eu de mauvais traitements, évidemment, leur réaction, leur méfiance vis-à-vis de l'humain va être accentuée. Mais au départ, un cheval, c'est un animal vraiment foncièrement gentil.
Les chevaux ont-ils des maladies spécifiques à leur espèce? Peuvent-ils avoir les mêmes maladies que les humains?
Alors oui, il y a plein de maladies qui sont communes aux humains et aux chevaux. Il y en a même qui sont transmissibles au cheval par les humains et au contraire à l'humain par le cheval. Mais il n'y en a pas énormément. Après, comme maladie spécifique, la plus grosse maladie, ce qui nous embête le plus souvent, la cause mortalité numéro 1 chez les chevaux, c'est ce qu'on appelle la colique. La colique, c'est un bouchon au niveau de l'intestin. Le cheval a un intestin très très long qui court dans son ventre, qui fait des allers-retours, des courbes, beaucoup de courbes. S'il mange trop ou s'il boit pas assez, il se peut qu'il y ait un bouchon qui se crée dans l'intestin. Et dans ce cas-là, ce bouchon provoque une nécrose de l'intestin. Si on n'est pas assez réactif, si on réagit pas tout de suite, et provoque la mort du cheval. Donc, quand un cheval a une colique, les signes, c'est le cheval qui gratte, le cheval qui se roule, il soulève la lèvre supérieure, on appelle ça le Fleming. Voilà, donc on a des signes quand même qui nous montrent des coliques, des débuts de colique. Donc si c'est pris tout de suite, on leur donne des antispasmodiques, des décontractants, et généralement ça passe comme ça. D'où l'intérêt d'avoir des vétérinaires pas loin. On peut leur paraffiner l'intestin, leur balancer de l'huile de paraffine dans l'intestin, pour essayer d'évacuer tout ça. Voilà, donc ça c'est la cause vraiment de mortalité numéro 1, les coliques. Et c'est lié à leur morphologie, à cet intestin qui est très long, et qui en fait, l'intestin des chevaux, il est fait pour que le cheval mange toute la journée. Et nous, le problème c'est que, bah, pour des raisons économiques naturellement, on ne leur apporte leur aliment que sur 4 ou 5 fois par jour. Donc en fait, on a une accumulation d'aliments en 4 ou 5 fois au lieu que ça soit étalé sur la journée. Voilà. Après, les autres maladies, c'est vraiment la colique qui nous pose le plus de problèmes.
Quand vous partirez à la retraite, que deviendront les chevaux du domaine?
Alors, moi j'ai de la chance parce que, en principe, j'ai mon fils qui va reprendre l'affaire. Donc là, il est encore étudiant, il est en seconde, il fait un brevet professionnel en gestion d'entreprise. Et après, il, normalement, si tout se passe bien, d'ici 3-4 ans, il devrait reprendre, enfin, peut-être pas dans 3-4 ans, mais quand je serai à la retraite en tout cas, il y aura une passation de pouvoir, et puis ça sera lui qui reprendra le club. Donc après, tous les chevaux, la plupart des chevaux de club, de toute façon, sont loués, donc m'appartiennent pas, et puis après les autres, et il faudra renouveler le cheptel petit à petit, et voilà, la chose se fera comme ça.
Merci monsieur Veyville d'avoir accepté de répondre à nos questions. Chers auditeurs de Gapo FM, j'espère que vous en avez appris davantage sur le haras d'Optré, et que ça vous aura donné envie de vous intéresser à l'équitation.
Merci à Eva, Marjana, Arnaud, Johan et leur invité du mois. Grâce à eux, vous savez tout sur le sujet. Pour connaître le thème de la prochaine rencontre, il vous faudra faire preuve de patience. En attendant, retrouvez chaque interview en podcast sur le site www.gapofm.com.